Chapitre 3. Les lamentations d'Edison. Toute tristesse n'est qu'un amoindrissement de soi. Spinoza. Il se parlait à voix basse. « Comme j'arrive tard dans l'humanité, murmurait-il. Que ne suis-je l'un des premiers-nés de notre espèce ? Bon nombre de grandes paroles seraient incrustées aujourd'hui, nées variatures, sic, textuelles, enfin sur les feuilles de mon cylindre, puisque son prodigieux perfectionnement permet de recueillir, dès à présent, les ondes sonores à distance. Et ces paroles y seraient enregistrées avec le ton, le timbre, l'accent du débit et même les vices de prononciation de leurs énonciateurs. Sans prétendre au cliché galvanoplastique du Fiat Lux, exclamation proférée, paraît-il, voici tantôt 72 siècles, et qui d'ailleurs, à titre de précédent immémorial, qu'on trouvait ou non, eût échappé à toute phonographie, peut-être m'eût-il été permis, par exemple, un peu après la mort de Lilith et pendant le veuvage d'Adam, de saisir et d'empreindre, dissimulé derrière quelques fourrés de l'Éden, tout d'abord le sublime soliloque. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis, l'Eritis Sicus dit, le « croissez et multipliez ». Enfin, le sombre golibé d'Élohim. Voici Adam devenu comme l'un de nous. Etc. Plus tard, une fois le secret de ma plaque vibrante bien répandu, n'eût-il pas été doux à mes successeurs de phonographier, au fort du paganisme par exemple, le fameux « à la plus belle », le « cos ego », les oracles de Dodone, les mélopées des Sibylles, etc. Tous les dires importants de l'homme et des dieux, à travers les âges, eussent été gravés ainsi, d'une manière indélébile, en de sonores archives de cuivre. De sorte qu'ultérieurement, le doute n'eût jamais été possible sur leur authenticité. Même parmi les bruits du passé, combien de sons mystérieux ont été perçus par nos prédécesseurs, et qui, faute d'un appareil convenable pour les retenir, sont tombés à jamais dans le néant. Qui pourrait, en effet, de nos jours, se former une notion exacte, par exemple, du son des trompettes de Jéricho, du cri du taureau de Phalaris, du rire des augures, du soupir de même nom à l'aurore, etc. Voix morte, son perdu, puis oublié, vibration en marche dans l'abîme, et désormais trop distante pour être ressaisie. Quelle flèche atteindrait de tels oiseaux ? Edison toucha négligemment un bouton de porcelaine contre le mur auprès de lui. Un éblouissant jet bleu partit d'une vieille pile faradique à 10 pas de son fauteuil et capable de foudroyer une certaine quantité d'éléphants, traversa de son dissolvant éclair un bloc de cristal, puis disparut dans le même 100 millième de seconde. Oui, continuait en son nonchaloir le grand mécanicien, j'ai bien cette étincelle qui est au son ce que la levrasse vierge est au chélonien. Elle pourrait accorder une avance de 50 siècles et plus dans les gouffres aux anciennes vibrations parties de la terre. Mais sur quel fil, sur quelle trace la dépêcher vers elle? Comment lui apprendre à les rapatrier une fois ressaisies, à les rabattre sur le tympan de leur chasseur? Cette fois, le problème semble, au moins, insoluble. Edison secoua mélancoliquement, du bout de son petit doigt, la cendre de son cigare. Après un silence, il se leva, non sans un sourire, et se mit à faire les 100 pas dans le laboratoire. Et penser qu'après 6000 et quelques années d'une lacune aussi préjudiciable que celle de mon phonographe, reprit-il, quantité de lazie émanée de l'indifférence humaine ont salué l'apparition de mon premier essai. Jouer d'enfant, grommelait la foule. Certes, je sais que, pris à l'improviste, quelques jeux de mots lui sont d'un soulagement indispensable et lui donnent le temps de se remettre. Cependant, à sa place, en fait de jeux de mots, je me fusse, du moins, efforcé d'en parfaire quelques-uns, d'un aloi supérieur à celui des grossiers calembours qu'elle n'a pas rougi de risquer à mon sujet. Ainsi, j'eusse blâmé, par exemple, le phonographe de son impuissance à reproduire, en tant que bruit, le bruit de la chute de l'Empire romain, les bruits qui courent, les silences éloquents, et, en fait de voix, de ce qui ne peut clicher ni la voix de la conscience, ni la voix du sang, ni tous ces mots merveilleux qu'on prête aux grands hommes, ni le chant du cygne, ni les sous-entendus, ni la voie lactée. Non, ah, je vais trop loin. Seulement, pour satisfaire mes semblables, je sens bien qu'il faut que j'invente un instrument qui répète avant même qu'on ait parlé, ou qui, si l'expérimentateur lui souffle « Bonjour, monsieur », réponde
« Merci, comment vous portez-vous »
ou qui, s'il arrive qu'un oisif éternue dans l'auditoire, lui crie « À vos souhaits !» ou « Dieu vous bénisse !» etc. Ils sont étonnants, les hommes. J'accorde que la voix de mes premiers phonographes avait l'air d'être, en effet, celle de la conscience parlant avec la pratique de Polichinelle. Mais on pouvait attendre, que diable, avant de se prononcer si lestement que le progrès les eut rendus ce qu'aux premières plaques de Nicéphore Niépce ou de Daguerre sont les épreuves photochromiques ou héliotypiques actuelles. Eh bien, puisque la monomanie du doute est inguérissable à notre égard, je tiendrai secret, jusqu'à nouvel ordre, le surprenant, l'absolu perfectionnement que j'ai découvert. Et qui est là, sous terre, ajouta Edison en frappant légèrement du pied. J'écoulerai de la sorte pour 5 ou 6 millions de vieux phonographes et, puisque l'on veut rire, je rirai le dernier. Il s'arrêta, songea quelques secondes, puis « Bah » conclut-il avec un mouvement d'épaule. En résumé, il y a toujours du bon dans la folie humaine. Laissons là de vaines plaisanteries. Tout à coup, un chuchotement clair, la voix d'une jeune femme, parlant tout bas, murmura près de lui. « Edison ?»